Vous êtes sur RTL.
Bonsoir Soizic.
Bonsoir Caroline.
C'est un prénom bien breton ça.
Oui, oui, j'habite en Bretagne.
Et là, vous avez de la neige ce soir?
Oui, il y a eu un peu de neige aujourd'hui, oui. Là,
ah, oui.
Ça s'est calmé un petit peu, mais bon. Demain, il y aura encore un petit peu, je crois.
Vous devez repartir au travail?
Non, je ne travaille pas en ce moment.
Ah, bah alors tant mieux. Mmh. Oui, c'est rare la neige en Bretagne, ça va faire des heureux. Les enfants vont être contents.
Les enfants vont être contents, oui.
Bon.
Ça fait donc, ça fait plusieurs années qu'on n'a pas vu la neige.
Mais c'est vrai, oui, en Bretagne, en général, il y a une douceur maritime qui fait que vous n'êtes pas touché par la neige. Et là, franchement, ça tombe bien, paraît-il.
Alors, je vous remercie beaucoup, Caroline, pour ce que, tous les soirs, je vous écoute.
Oh, ben c'est moi qui vous remercie, alors, Soizic, d'être à l'écoute.
Et depuis que ça fait quelques semaines, c'est ma mère qui m'avait conseillé de vous écouter.
Oui, ah bah merci à votre maman alors.
Oui, et depuis mes nuits sont plus douces, voyez.
Oh, bah ça.
Voilà, votre voix est apaisante. Je retrouve vraiment une chaleur, une tendresse, quelque chose que j'avais un petit peu perdu là, et c'est vraiment très 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 apaisant.
Moi, ça me touche beaucoup, Soizic. Pourquoi vous dites que vous aviez un peu perdu la douceur et la tendresse
Enfin, je suis séparée depuis 4 ans déjà.
Oui.
Et donc, ça a été vraiment un petit peu chaotique, hein, comme dans pas mal de divorces, j'imagine. Mais bon, j'en suis. Je suis maintenant bien par rapport à cette séparation. Quoi. Je suis.
Vous ne regrettez pas votre. Vous avez survécu, oui, le terme est fort quand même.
Oui, j'ai survécu. Ça a été
séparation ou à la relation
À tout.
À tout.
Voilà, j'ai survécu à tout. Hmm. Pas mal de. Oui, c'était bon. Mais Mais c'était finalement une libération. Et puis. Finalement, je suis très bien seule. Je suis très bien seule. J'ai de très bons amis. Et puis.
Oui, vous retrouvez finalement une sérénité. Peut-être que vous ne connaissiez plus. Enfin.
Non. Je me retrouve comme quand j'étais ado, vous voyez.
Ah oui, c'est pas rien ça. Vous avez quel âge aujourd'hui si c'est pas
52.
Ah ben c'est.
C'est-à-dire que là.
Formidable.
Oui. Là, je me retrouve vraiment telle que je suis.
Comment vous étiez ado? Alors, justement, comme pleine de rêves, pleine de désirs. De désirs, moi, je disais.
Oui, parce que
délire, c'est drôle, oui.
Oui, enfin, délire, oui. On peut dire, la musique en tête, des projets en tête, et puis surtout très, très, très romantique.
Oui, vous retrouvez une légèreté, au fond.
Voilà,
vous aviez
ça.
Perdu.
Voilà. Et je pensais, donc, que cette légèreté. Retrouver après ce divorce difficile, ça allait continuer comme ça jusqu'au moment où le Covid est arrivé.
Et oui, ça c'est vrai que. Et alors, la légèreté.
Alors là, toutes ces angoisses sont réapparues. Pas forcément la séparation, le divorce, mais par rapport à mon fils surtout. Parce que j'ai vécu des années difficiles.
Oui.
Il a été très 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 malade petit.
Ah bon?
Et j'ai su qu'il était malade quand j'étais enceinte. Il avait une tumeur au poumon.
Oh là là, oui. Voilà.
Heureusement pas cancéreuse, mais bon, il y a eu une évolution défavorable tout le long de la grossesse.
Vous l'avez appris donc lors d'une échographie.
Oui, voilà, c'était au quatrième mois.
Oh là là, oui, vous avez dû avoir une grossesse, c'est très difficile.
C'était très 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 compliqué, surtout que j'ai pas eu un médecin à la hauteur. Au départ, mon gynécologue n'était pas à la hauteur, c'est-à-dire qu'il a pris ça un petit peu, pas à la légère, mais bon, comme il n'avait jamais vu ce cas, c'était extrêmement rare, il savait même pas que ça pouvait exister. Une anomalie comme ça, il m'a parlé tout de suite de maladie chromosomique. Mon mari était à côté et on était complètement abattus, quoi.
C'était votre première grossesse? C'était votre premier bébé?
Non, c'était mon deuxième.
Oui, mais enfin, quand bien même, c'est.
C'était très, très, très dur. je me souviens encore de cette sensation d'avoir de m'enfoncer dans le sol, quoi, de perdre pied, de quand le médecin m'a dit, mais voyez, je sais pas ce que votre enfant a, mais en tout cas c'est grave et je ne sais pas du tout ce que ça va devenir. Il faudra refaire une échographie. On va vous faire une hémosynthèse pour savoir.
Oui, c'est terrible. Mais est-ce qu'après, lors des examens suivants, on a pu un peu vous rassurer ou jusqu'à la naissance, vous êtes restée dans l'incertitude?
Bah, heureusement que j'ai eu un ange qui est passé. Et qui, voilà, mon père qui était, qui travaillait à l'hôpital, connaissait un professeur en gynécologie et qui avait, c'est vraiment le hasard qui a fait qu'ils se rencontrent et qu'ils ont parlé de mon futur bébé.
Oui.
Et comme par hasard, il avait fait une thèse où, sur ces cas très rares là de tumeurs au poumon.
Oui. Ah oui,
voilà.
Et c'est pas banal, enfin.
Non, du tout. Mais ça tombait très très bien ce médecin avait déjà étudié.
Oui, il fait sa thèse là-dessus, alors que c'est voilà, quelque chose de rare.
Rare. Et ce fut mon médecin pendant tout ce temps-là.
Il vous a suivi.
Il m'a suivi, mais il m'a suivi d'une façon remarquable, quoi. Il m'avait donné son numéro de portable, je pouvais le joindre le dimanche, voilà.
Et ah oui, c'est énormément investi.
Ah, il s'est investi.
Tous les dimanches.
Oui, tous les dimanches, j'allais faire une échographie. La sage-femme n'en revenait pas, il était autant petit soin que moi.
Oui,
il avait besoin de savoir, il avait besoin de voir l'évolution chaque semaine.
Oui.
Et lui-même, il avait un enfant handicapé, voyez.
Ah, oui.
Donc il comprenait à quel point ça pouvait être dur psychologiquement de pas savoir ce qui allait se passer. Donc il m'a prescrit tous les examens qu'il fallait.
Oui, puis pendant la grossesse, il y a une telle impuissance, porter un bébé dont on sait qu'il peut être mal ou malade, et enfin il y a de la culpabilité, il y a plein de choses qui se mêlent.
Oui, c'est sûr. J'avais en plus fait une fausse couche juste avant, alors. Et je voulais avoir un enfant très vite après, pour ne plus penser à ce qui s'était passé.
Oui, je comprends.
Donc,
Donc, il s'est occupé de vous, enfin, vous étiez là vraiment, vous étiez très, très bien accompagné.
Oh, très, très, très bien. On ne peut pas rêver mieux, quoi. C'était formidable quand j'y pense. Maintenant, c'était.
Donc, jusqu'à l'accouchement.
Jusqu'à l'accouchement par césarienne. Je suis allée faire une visite au 8e mois et demi. Et en fait. Je pensais que c'était juste une visite de contrôle et puis il m'a dit c'est aujourd'hui parce que là je vois que il y avait un souci, le passata, enfin ça allait pas, donc
Il valait mieux que faire naître votre bébé.
Il m'a demandé si j'étais d'accord, j'ai dit oui bien sûr.
Oui.
Donc le bébé est né par césarienne.
Oui, à 8 mois donc.
8 mois et une semaine. Bon. Voilà, c'est ça.
Donc il a été transféré en néonat ou pas?
J'ai vu 5 secondes et après il est allé 5 secondes, oui, c'est ça. J'ai eu le temps de lui dire bonjour, quand même. Et puis après tout de suite il a été transféré en service de réanimation, d'abord c'était un service pour néonat. Et puis après le lendemain la chirurgienne est venue me voir en disant qu'il fallait absolument l'opérer parce que ça allait pas, quoi.
Oui, au problème, il avait du mal à respirer, il était en détresse respiratoire.
Oui. Il a été opéré tout de suite.
Oui. Ben oui, ils font des choses extraordinaires. Ils lui ont enlevé la tumeur. Ils ne pouvaient pas. Il y a même des bébés maintenant qu'on opère in utero. Enfin, certaines malformations qu'on décèle, où ça pourrait être compliqué le devenir pendant la grossesse, où les bébés sont opérés in utero. Oui, chose incroyable. Donc on imagine un tout petit, il avait 24 heures et déjà on l'opère. Oui, quelle angoisse.
C'était terrible. Moi, je j'avais tellement mal, j'étais seule dans une chambre, isolée des autres mamans qui avaient eu un bébé.
Oui, oui.
J'étais tellement mal, vraiment.
Oui, c'est des moments terribles parce que vous n'avez plus votre bébé.
Non.
Et vous ne savez pas, vous savez que, bon, c'est évidemment toujours très risqué. Et puis, une fois qu'on lui retire la tumeur, il y a aussi, j'imagine, le fait de devoir l'analyser. Il y a eu cette attente aussi.
Oui, tout à fait. Et puis, il y a eu l'opération en elle-même s'est bien passée. Mais il y a eu des complications pendant environ 3 semaines. Il était en réanimation, intubé. Voilà, c'était très impressionnant. Et il a eu des complications, des maladies nosocomiales, des détresses respiratoires très très violentes. Il a failli mourir à 3 reprises quand même en réanimation. C'était vraiment...
Pendant ce temps-là de lorsqu'il était nouveau-né.
Oui, tout à fait, oui.
Et quand vous dites qu'il a failli mourir à 3 reprises, c'est-à-dire qu'on vous en avait parlé, que sa détresse était telle que...
Oui, au moment de Noël, oui, c'était vraiment très, 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 très...
Oui, c'est épouvantable.
Ah oui, ça a été très dur, très, très dur. Et puis...
Donc vous étiez sortie et votre bébé était resté...
Non, je n'étais pas sortie, justement.
Il vous avait gardé, en général, ils font ça, oui.
Oui, ouais. Voilà, comme j'avais eu déjà l'opération, et j'avais dit à mon médecin... j'aimerais bien rester hospitalisée quelques temps de plus pour pouvoir aller voir mon fils.
Oui, en général, oui. C'est tellement dur pour les mamans de sortir, de rentrer à la maison sans leur bébé.
Ah oui. Donc du coup, pendant quelques temps, je suis restée. Et du coup, normalement, faut quelques jours aussi pour se remettre une césarienne.
Ben, mais
là,
oui. Et comment ?
Au bout de 3 jours, il fallait que je me lève.
Il fallait que vous soyez auprès de votre bébé, mais ça,
voilà,
c'est important parce que ça l'aide aussi.
Oui, tout à fait.
Il a besoin de sentir.
Ah oui, tout à fait.
Même si les équipes sont formidables, et veillent sur ces tout petits avec un dévouement extraordinaire, mais bon, ça remplace pas la maman et le. C'est important. Et c'est fou de voir des petits êtres, enfin, qu'on dit évidemment quand ils viennent au monde si fragiles, et en même temps animés, qui se battent. De voir de si petits êtres, parce que vraiment, se battre avec une énergie si farouche, vraiment, parce qu'ils se battent pour vivre. Quel âge il a, ce petit, aujourd'hui ?
20 ans.
Voilà, je voulais, parce que moi, je l'ai sur votre fiche, mais voilà, c'est... Comment va-t-il ?
Il va bien, mais c'est... Heureusement, mais il a toujours de l'asthme, mais bon, c'est bien stabilisé, et voilà, donc...
Bon.
Et c'est moi qui est toujours angoissée par rapport à lui.
Oui, j'entends ça. Oui.
Très angoissée.
Mais c'est-à-dire que c'est revenu avec le Covid, vous
dites. Tout à fait.
Un Covid où qui se porte, on sait que c'est un virus qui se porte beaucoup sur les voies respiratoires. Donc ça aussi, déjà, sans cela, bon, c'est angoissant. Mais ça fait ressurgir, vous le dites d'ailleurs, tout est remonté là.
Ah oui, tout.
Quand vous nous en parlez, on a l'impression que ça s'est passé hier.
Ah oui, là j'ai l'impression d'être dans cette ambiance-là.
Que vous êtes, ça, avec un...
Une sorte d'épée et d'un mocassin sur ma tête.
Cette peur, au fond.
Ah oui, cette peur.
Cette peur de le perdre.
Ah oui, tout à fait, c'est vraiment...
Et puis, c'est irrationnel, là, il y a quelque chose qui vous envahit.
Qui m'envahit.
Il vit avec vous ?
Oui.
Qu'est-ce qu'ils ont dit, lui ? J'imagine que vous essayez de ne pas lui montrer, mais...
Je préfère quand même, pas tout le temps, j'essaie d'être gay, on parle beaucoup ensemble, on a beaucoup d'échanges, quelquefois très joyeux, hein. Hier soir, on mangeait ensemble, on était bien tous les deux, il n'y a pas de souci. Non, je ne suis pas du tout du genre pessimiste. Vous voyez, je suis angoissée, mais
non,
j'aime
mais c'est tout à fait différent.
Ouais,
on peut être très angoissée et être optimiste, malgré tout.
Voilà. Oui, tout à fait. J'ai toujours vécu sur de l'espoir. Et d'ailleurs, quand j'étais enceinte de mon fils, on va se battre et on va y arriver.
Oui,
quoi. J'avais cette force en moi.
Oui.
Et elle ne m'a pas quittée.
Non.
Seulement, là, je me sens fragile par les événements d'aujourd'hui. Et puis le confinement avec lui n'a pas arrangé les choses parce que parce que je pensais qu'il n'aurait pas attrapé le Covid. Je pensais le protéger suffisamment. C'était devenu une obsession. Mais les mains, les surfaces, les courses, tout était désinfecté. Du sol au plafond régulièrement.
Et il a contracté le...
Et ben il avait un jour. Donc un matin, il vient me voir, il me dit maman, je sais pas ce qui se passe, mes pieds. J'ai les pieds chelous.
Oui, oui, j'allais dire c'est un langage de jeune, mais Paul, c'est un vocabulaire qu'il utilise. Donc maintenant, je connais. Oui, c'est chelou. Il me dit bon, voilà, c'est louche. Un verlan. Voilà. Donc, il avait un pied qui était louche.
Voilà, tous ses orteils étaient devenus violets.
Ah oui, mais c'est un des signes, oui, en effet.
Voilà. Mais vraiment.
Il s'est réveillé un matin comme ça avec les pieds violets.
Mais non, ça faisait une semaine qu'il avait ça, mais il n'osait pas.
Mais il ne changeait pas de chaussettes, donc. Donc, il n'osait pas vous le dire. Il a dû dire, mince, qu'est-ce que j'ai absorbé? J'ai les pieds violets.
Il a pensé à une allergie, une mycose.
Ben oui. Oui.
Voilà.
Non. Ben oui, mais non, mais c'est vrai qu'on en a parlé tardivement de ce symptôme, oui.
Et là, du coup, il a fait un test PCR qui est revenu négatif.
Ah oui, par le nez bien sûr, mais avec un résultat rapide quoi.
Non, c'était pas rapide, non, c'était au bout
de... Ah bon, donc il y a des faux négatifs. Bon.
Non, mais en fait, c'était pareil que cette inflammation des pieds.
Oui. Elle va direct sur les pieds, elle va pas dans les voies respiratoires.
Non, quand c'est sur les pieds, c'est pas grave en fait. Voilà.
C'est ce que j'ai entendu dire aussi, confirmer.
On pourrait se rassurer. Alors j'ai téléphoné à son homologue. Je me suis essayé de me rassurer en disant de toute façon il est jeune, il est en bonne santé.
Oui.
Voilà, j'ai essayé de me rassurer. C'était...
Oui. Mais vous étiez très angoissée au fond.
Mais au fond oui, parce que. Mais après j'ai su, j'ai pris plein, j'ai goûté BFM toute la journée.
Ah ben ça alors. Si vous êtes angoissé, de temps en temps, il faut faire une pause. Hein.
Bah là, j'ai arrêté. Hein.
Oui.
J'écoute le soir.
Oui, informé, mais pas en continu.
Là, ça remet une couche d'angoisse.
Oui. Ben oui. Et alors, comment il va? C'est-à-dire que donc il n'a pas eu hormis ses pieds violets, mais c'est comme des extrémités gelées. Alors elles ne le sont pas, mais c'est il est curieux ce virus. Hein. C'est vrai qu'il y a des différentes formes, des symptômes quand même très. Alors au fond, il a pas eu, il a eu de la fièvre quand même ou pas trop?
Ben, en fait, il avait mal à la gorge trois semaines avant que ça apparaisse les pieds violets.
Et alors ce test Covid qui est revenu négatif, c'est-à-dire quand ça touche les pieds. On le retrouve pas dans le nez, quoi, le virus.
On le retrouve pas, parce
d'accord.
Que c'est la suite, en fait. C'est vraiment la toute fin de la maladie.
Mais ça touche les vaisseaux, en fait. Hein, donc, ça va jusque. Donc là, il n'a pas eu, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu de symptômes respiratoires.
Non, à part un peu mal à la gorge.
Bon, il est gentil, vous voyez, il a fait en sorte de pas trop... Il a contracté le virus, mais sans trop vous alarmer.
Oui, oui, voilà, c'est ça. Et puis, j'ai voulu qu'il monte ses pieds au dermato, mais bon, par ordinateur, par téléconsultation.
Oui, oui.
Il a toujours refusé, en disant, je vais pas montrer mes pieds à une caméra.
Ah ben, il y a des gens qui... Beaucoup de gens n'aiment pas leurs pieds.
Voilà, c'est ça.
Voilà, il s'est dit, si j'ai un fétichiste des pieds en face, non.
Il était très têtu pour ça. Bon. Je me suis dit, mais si c'est un signe du Covid, il faudrait mieux, quoi. Mais voilà, non, ce n'est pas possible. Voilà, mon fils, c'est un bien, bien breton, il est têtu, et puis... Et il avait décidé que, voilà, que ce n'était pas ça, qu'il ne fallait pas que je m'inquiète. Mais finalement, il a
dit... Et aujourd'hui, il va bien.
Ah oui.
Bon, le problème, c'est vous qui êtes, qui n'allez pas bien, qui êtes extrêmement angoissé, quoi.
Oui, trop. Bon.
Alors, trop, voilà, oui. Y a des choses qui remontent, vous le dites très bien, c'est-à-dire qui réactivent ce que vous avez vécu, et c'est extrêmement pénible, c'est-à-dire que vous avez eu peur de le perdre. Et il est arrivé après une fausse couche, déjà. Hein, dans un contexte particulier, puis vous avez vécu des mois d'angoisse. La grossesse, nouveau-né. Donc, et après, quand même, vous avez dû veiller sur lui particulièrement, être le protéger. Bon, alors aujourd'hui, il est bien pris en charge. Il a de l'asthme, mais il est suivi par un pneumologue. Enfin, il va bien. Il est étudiant, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il...
Non, il travaille.
Il travaille, d'accord. Alors, il y a Evelyne de Lisieux, elle dit « Comme je vous comprends, mon bonhomme a 26 ans aujourd'hui et toujours cette angoisse, surtout avec ce Covid. Courage à vous. » Elle dit « Parce que quand ils sont petits, on peut faire ce qu'on veut, on peut c'est nous qui faisons les démarches, mais quand ils sont grands, c'est plus compliqué. Evelyne, son fils, a eu un problème cardiaque, très important. » elle dit « Pendant le premier confinement, je l'avais carrément mis dans une bulle. Il n'était pas content, mais je me devais de le protéger. » C'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment, déjà, vous, ça pèse sur vous, mais ça peut aussi peser sur l'enfant devenu grand, cette angoisse.
Oui, tout à fait.
Donc, c'est bien parce que vous en êtes consciente.
Ah oui, tout à fait.
Il y a des raisons d'être à cela. Si ce n'est que là, vous qui aviez retrouvé, après votre séparation, une légèreté, vous dites que vous étiez revenue comme à l'adolescence. Bon, le Covid a fait remonter et c'est ressurgir des choses qui restaient douloureuses. Et là, un petit accompagnement serait un peu nécessaire d'une façon ou d'une autre pour trouver un peu d'apaisement. Ça peut être reparler. Est-ce que vous aviez été accompagnée psychologiquement pendant cette période-là ? Il y avait ce professeur qui vous suivait, vraiment qui veillait sur vous, mais est-ce que vous avez pu mettre des mots sur votre peur de le perdre, sur ses angoisses ou pas du tout ?
Non, pas vraiment.
Mais peut-être qu'aujourd'hui, il y a des choses, voyez, qui auraient besoin d'être parlées et un peu élaborées, et donc mises à distance. Être un peu soutenues. Parce que c'est vrai que je vous écoutais attentivement et on était de tout cœur avec vous. C'est pour ça qu'à un moment j'ai dit, parce que moi je savais qu'il avait 20 ans, mais là on avait l'impression que vous veniez de quitter le service de réanimation. Donc, et parce que dans notre psychisme, si vous voulez, notre inconscient, il ignore le temps.
Ah oui,
ce qui s'est passé de traumatique, ça peut s'être passé il y a 20 ans, il y a 30 ans. Quand ça fait trauma, c'est là, c'est comme si ça s'était passé hier. Et parfois, des choses sont comme ça, il y a des strates. Et puis, tout d'un coup, elles peuvent remonter à la surface avec une intensité qui nous stupéfait, nous-mêmes. Mais ça signifie qu'il y a quelque chose qui reste douloureux, pas bien élaboré. Et forcément, quand ça touche à un enfant, et un enfant qu'on a eu peur de perdre, ça se comprend. Ça se comprend, et surtout dans un contexte où il y a beaucoup d'anxiété, et avec un virus qui, généralement, se porte sur les voies respiratoires. Et c'était un peu la fragilité de votre garçon.
Oui,
donc, je pense que le fait, enfin, un peu d'en parler, d'être un peu accompagné. Alors, il y a plusieurs, il y a des personnes qui, à ce moment-là, prendraient un petit tranquillisant, un petit anxiolytique. Bon, ou ça peut être un travail souvent avec la sophrologie, travail. Mais ça peut être aussi quelques séances. C'est après en fonction de ce qui peut vous faire du bien, où vous êtes un peu accompagné et où vous allez reparler de tout ça, ce qui est une façon de mettre à distance l'événement, de le ranger au fond. C'est-à-dire qu'il disparaît pas, il est là, bien sûr, il fait partie de votre histoire et de l'histoire de votre fils, mais il n'a plus cette portée anxiogène et toxique. Parce qu'on a pu le travailler. Et le travailler, ça peut être simplement reparler, mettre des mots, au fond. Mettre des mots, parce que mettre des mots, comme vous le faites là avec moi ce soir, c'est déjà mettre à distance, quand on peut en parler. Souvent, quand on souffre le plus, c'est qu'on n'arrive même pas à mettre de mots. On est très mal, mais on ne peut pas mettre de mots. Or, vous le dites très bien, vous êtes angoissé, tout en étant quelqu'un d'optimiste et qui aime la vie. Mais je trouve que pour quelqu'un d'angoissé, vous exprimez très bien.
Oui, j'en ai conscience de tout ça. J'arrive à analyser.
Oui, c'est même pas analyser d'ailleurs, c'est que si, dans le sens où vous faites le lien avec votre histoire et vous en parlez bien. Donc je trouve que ça serait dommage de rester dans cet état d'angoisse parce que c'est douloureux l'angoisse, et physiquement et moralement.
Ça épuise.
Oui, ça épuise. Bien sûr que l'angoisse épuise. Oui. Quelques réactions, Paul, parce que j'imagine que ça fait écho chez beaucoup de parents, chez beaucoup de mamans et de pères aussi, qui ont pu, comme ça, éprouver des angoisses vis-à-vis de leurs enfants, avec des débuts dans la vie bien difficiles. Hein.
En parlant de père, Benjamin, qui a vécu la même chose avec l'opération du cœur de son fils à la naissance, c'était une maladie congénitale, et il vous souhaite beaucoup de courage, et il comprend ce que vous ressentez. Oui. Et Sharon qui dit « Je ressens ces vibrations, tellement d'amour de maman, ça se sent ». Dit Sharon.
Maman poule.
Oui,
exactement.
Mais oui. Il y a Evelyne, voyez, elle dit « Oh, c'est vrai que j'aurais bien besoin de consulter finalement, parce qu'à chaque fois que je reviens sur cette douloureuse période, ben, je pleure. » Donc, je crois que c'est ça, c'est important de trouver une façon de s'apaiser. Pour vous et pour votre fils aussi, ça lui fera du bien. C'est-à-dire...
Moi, je m'éloigne de ma maison, là, je suis chez ma mère souvent, parce que je veux qu'il... Je veux pas non plus
transmettre. Je comprends.
Sans arrêt l'angoisse.
Oui, je comprends. Mais c'est bien, on sent. Oui. Vous êtes une maman. Bon, vous êtes une maman extrêmement protectrice. Et c'est vrai, avec un vécu très difficile. Mais il a 20 ans. Il va bien. Et l'éloignement physique que vous mettez en allant chez votre maman, vous pouvez le trouver en thérapie, mettre une distance psychique. Je vous assure. Et sans forcément être dans une thérapie au long cours. Hein. Quelques entretiens pourraient vous permettre de mettre à distance. Paul, une petite réaction avant qu'on se quitte, peut-être ?
Oui, et je viens de quitter la page, mais ça va arriver. C'était Corinne qui disait « Ah là là, oui, ça nous remue, nous, les mamans, toutes ces histoires. » Et puis Marie-Claude qui dit « C'est vrai, ce vide quand on rentre de la maternité sans le petit dans les bras, ce sont des dates pour moi qui sont marquées au fer rouge dans ma mémoire. »
Oui, c'est inévitable. Enfin, il y a même quelqu'un, Benjamin le disait, ou je ne sais plus, une sensation physique. Surtout quand on parle là d'intervention sur des tout petits, quoi, sur des nouveau-nés. Donc déjà, il y a la séparation de la naissance, ce bébé qui est emporté, dont loin, dont on sait qu'on va intervenir sur lui. C'est des moments très éprouvants. Et forcément, ça laisse des traces. Donc bon, c'est important et ça peut ressurgir. C'est voilà, il y a des choses comme ça qui peuvent être élaborées même des années après. C'est ça que je voulais vous dire, surtout Soazic, pour ne pas rester avec ce mal-être quand même.
Mais je sais bien que quand tout le Covid sera parti, et j'espère bien que ce sera...
Oui, bah de toute façon, à un moment...
Je suis sûre que je vais retrouver mon insouciance.
Oui, mais finalement, n'attendez pas. C'est dommage, je trouve. Vous attendez. Et bien sûr qu'à un moment, on en sortira parce qu'on sera vaccinés, puis parce que la vie des virus fait qu'à un moment, de toute façon, ils finissent par s'éteindre aussi. Mm-hmm. Mais c'est dommage d'attendre. Et d'attendre dans l'angoisse, vous dites, ça épuise. Et je trouve, le fait que ça remonte avec cette intensité-là douloureuse montre... au fond, qu'il y a quelque chose qui reste blessé, douloureux en vous. Et peut-être que c'est le moment aussi de le retravailler un peu, finalement, aussi.
Oui, peut-être en parler plus, vraiment trouver des mots, les mots.
En parler avec quelqu'un dont c'est le métier d'écouter, c'est pas en parler plus, c'est en parler avec quelqu'un qui va vous accompagner, dont c'est le métier d'écouter. Et ça, ça change les choses. Bon courage, Soazic. Merci en tout cas pour votre appel.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
RTL.
Jusqu'à minuit 30, Caroline Dublanche.
Parlons-nous.